stop the dump, do that beat. Do that beat, do that beat, do that beat. Radio La Fin.
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 Radio La Fin. Radio La Fin.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de Radio Galère 80.4 pour l'émission Radio La Fin du Monde. Nous sommes ce soir toujours dans les studios merveilleux de la Fraîche de la Mille de Bé en compagnie de l'irremplaçable Blinis Sambuka. Bonsoir Blinis.
Bonsoir mon cher Richard.
Bonsoir.
J'espère que vous allez bien, j'espère que nos auditeurs vont bien, bien sûr. Hein. Nous sommes à votre service et vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons et que nous développons ce que nous développons sans jamais tomber, bien sûr, dans le cliché ou l'abstraction. Voilà. Et ce soir, ben, nous sommes heureux d'être avec vous en direct sur les ondes de Radio Galère 88.4.
Absolument, en effet, nous sommes ce soir le jeudi 29 mai 2025, histoire de vous resituer un petit peu tout ça. Il est actuellement 22h17, je vous passe les secondes. Et ce soir, on se retrouve après une pause de quelques semaines où nous n'avons évidemment pas chômé. Nous avons glané entre autres de multiples sujets, gratté des bouts de papier et également vaqué à d'autres activités extra-radiophoniques, évidemment. Nous sommes ici ce soir pour un numéro spécial de notre rubrique que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas ressorti justement cette rubrique Sécrétion d'Histoire avec les plus grands spécialistes qui écument les sous-sols des salles d'archives, qui vont arpenter les musées, également être assez friands de lecture, de discussions, de conférences.
Coupures de presse, de journal d'époque.
Entre autres.
Remise grenier, exactement, des fois où on trouve de merveilles.
Et donc tout ceci pour ce soir nous retrouver avec une petite brochette d'invités assez complètement antichristique. Alors c'est un adjectif qui effectivement n'est pas très souvent employé, mais nous allons voir ce soir que cette branche de la gastronomie qui est encore assez méconnue et quelque peu controversée dans le milieu va vous permettre d'appréhender justement le monde culinaire et son histoire à travers les âges de manière tout à fait novatrice. Et donc ce soir on se retrouve pour un sujet de sécrétion d'histoire qui nous parlera de moult choses telles que... Ah mais le document ne s'est pas encore ouvert, effectivement, on se retrouve. Voilà, on va se retrouver avec notre premier invité. Je voudrais vous présenter Augustule Petgrave. Bonsoir Augustule.
Bonsoir.
Alors, bonsoir Augustule.
Bonsoir Augustule, bienvenue à vous. Alors je suis en train de découvrir un petit peu en direct votre fiche caractéristique. Alors vous êtes né en 1973 dans un petit village alsacien dont je ne vais pas m'essayer à la prononciation, je vous laisserai le faire tout à l'heure pour corroborer ou pas les informations qui sont dans votre dossier. Alors, votre métier, vous êtes retraité depuis peu, vous êtes un ancien loup de mer, ou marin.
Exactement.
Et c'est venu comment ?
25 ans de carrière, vous avez actuellement 51 ans, on sait que la retraite des marins se prend un petit peu plus tôt, c'est un régime assez particulier. Vous avez fait les écoles de la marine marchande ?
Non, pas du tout, j'étais juste gardien de zoo à Mulhouse, et ma girafe brévérée est bardie, donc j'ai brévéré la zuivre.
Alors racontez-nous un petit peu. Donc gardien de zoo de Mulhouse, ça c'était quoi, 17 ans, je vois dans votre dossier.
Exactement.
Et donc suite à ce chagrin d'amour, à cette séparation, vous avez eu vent que Sophie, la girafe, c'est ça, petite Sophie, avait été déplacée, déménagée outre-Atlantique.
C'est ça.
C'est ça.
Vendue.
Vendue au musée de San Francisco.
C'est ça.
Donc avec un long périple qui pour elle, un très très long périple. Donc Mulhouse, de Mulhouse, elle est partie en barge, c'est ça si je ne m'abuse.
Oui.
Elle a rejoint un des canaux qui permettent la connexion avec le Rhin, pour ensuite descendre vers les côtes de la Baltique et venir s'échouer dans le port d'Amsterdam. S'échouer, enfin, accoster.
Exactement.
C'est ici que vous avez d'abord retrouvé sa trace.
C'est ça. Après quelques mois de recherche, je suis tombé sur sa queue. On lui avait coupé la queue.
On lui avait coupé une amputation.
C'est horrible.
Ah oui, et en faisant quelques recherches, j'ai appris qu'elle partait en Amérique.
En Amérique. C'est ça, vous avez réussi à vous faire ami-ami avec un docker qui justement était assez outré du traitement qui a été infligé à cette girafe durant son transport.
Oui.
Et qui vous a donc permis de récupérer certaines informations confidentielles, notamment la destination. Donc vous vous êtes embarqué sur un voilier.
C'est ça.
Voilà, vous avez fait skipper.
Un beau trois mâts.
Un beau trois mâts. Et c'est là que vous avez donc fait vos premières armes en tant que mousse.
C'est ça.
Alors vous avez subi, évidemment, c'était quoi, un équipage d'une cinquantaine, ça ?
On était plus 60, 65.
Ouais. Vous avez subi, j'imagine, les brimades, les bizutages qui sont subséquents à la condition de mousse.
Ah bah, surtout que quand on n'est pas marin de base, c'est compliqué. Hein.
Donc vous avez fait les plus basses besognes, que ce soit en fond de cale ou sur le pont. Bon, vous nous raconterez ça un petit peu plus tard. Mais bon, pour Sophie, la petite girafe a fait un long voyage de plus de 4 mois. Vous avez eu vent également de son passage par le canal de Panama.
Oui.
Et vous êtes questionné donc, sur les conditions aussi de celui-ci et de son arrivée à San Francisco. Alors lorsque je vais vous laisser un petit peu développer ce passage, peut-être je vois que une larme coule sur votre joue. Vous semblez un petit peu ému.
Quand j'ai retrouvé sa trace à San Francisco, j'ai appris qu'elle avait été embaillée.
C'est un taxidermiste chinois du quartier.
Exactement. Chinatown. Yeah. Exactement. Yeah, yeah. Donc, j'étais dévasté. Je ne voulais plus vivre. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi-même transborder des animaux outre-Atlantique
avec soin.
Mais ça, je lis que c'est après 6 mois passés dans une maison de repos suite à un choc émotionnel.
C'était très difficile.
Ok, donc c'est pour ça que vous avez fait mûrir cette idée.
Vous avez également contracté une dette de 350 000 dollars
pour acheter un bateau, oui.
Racontez-nous un petit peu.
Alors. C'était un peu compliqué parce que avec 350 000 dollars, on n'a pas le meilleur des bateaux. J'ai dû acheter un vieux bateau de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Panama. Donc,
mais c'est symbolique par rapport à Sophie, ce qui s'est passé pendant le cas, mais on reviendra peut-être sur cet événement.
Je pouvais embarquer quelques dizaines d'animaux par traversée.
Donc là, vous avez actuellement plus de 525 animaux transportés dans la plupart des grands ports et à travers les océans et mers du beau globe terrestre sur lequel nous nous trouvons.
Yeah.
Avec grand succès, vous avez notamment 5 étoiles auprès de Worldwide Nature Association, pardon, et toutes sortes d'associations protectrices des animaux qui vous offrent leur plus grand soutien et recommande également pour les transports logistiques assez conséquents d'animaux. N'hésite pas à vous confier la tâche, quoi.
Yeah.
Et vous pratiquez des prix assez bas également. Yeah. Je comprends, vous êtes assez concurrentiel par rapport à ce qui se fait habituellement.
J'aime les animaux et non pas le profit, donc je fais des prix plus bas que le marché.
Et vous réalisez également de nombreux galas, trois galas annuels qui vous permettent auprès de riches mécènes de récupérer des fonds.
Yeah.
Enfin, de faire fonctionner un peu plus votre entreprise. C'est, oui, vous êtes une petite célébrité sur Instagram. Voilà, ouais,
j'ai
quelques followers.
150 000 pour être précis.
Non, on voit votre dernier reel, justement, où on voit sur le bateau là, en compagnie d'un bel hippopotame qui semble justement découvrir. On voit dans son regard qu'il a l'air quand même un petit peu perplexe face à l'immensité de l'océanique qui se trouve autour de lui. Et c'est là où cette petite main que vous lui posez sur l'oreille semble tout à fait rassurante.
Yeah.
Et beaucoup se sont posé la question si ce n'était pas un trucage fait à l'intelligence artificielle.
Non, pas du tout.
Vous avez raison, Richard, on n'est jamais trop prudent aujourd'hui hein, avec ce genre de choses.
Je suis un peu vexé, mais ce n'est pas grave.
Non, mais vous n'avez plus rien à prouver. Après, vous avez pas mal de détracteurs et de détractrices également.
Yeah.
Vous avez quand même subi des campagnes de diffamation.
Yeah.
Quatre. Notamment par le Congrès des États-Unis, je lis ça 2011, donc ça remonte un petit peu. Est-ce que comment avez-vous échappé à cette peine de prison aux États-Unis? J'ai compris que vous étiez introduit dans plusieurs zoos.
C'est une histoire un peu compliquée de ma vie, mais je préfère ne pas en dire trop non plus dessus.
Vous vous êtes pourtant livré dans un bouquin. Après, si vous pouvez faire la promo de votre livre, il n'y a pas de souci. Si vous préférez rediriger nos auditrices et nos auditeurs vers votre biographie, voilà, vous avez le droit.
Ça s'appelle Moi, marin et amoureux des animaux.
Aux éditions.
Aux éditions Plomb.
Plomb de pêche. C'est tout à fait.
Exactement,
correct.
Exactement.
Donc votre expertise, votre présence et votre expertise seront importantes pour la suite de notre émission. On va poursuivre ce tour de table au niveau des présentations en passant de suite avec Monsieur Palpouzian Guildéor. Bonsoir Guildéor.
Et bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Bienvenue. Prenez vos aises, je vous en prie.
Voilà.
Normalement, c'est un studio non fumeur, mais je vous en prie.
Écoutez,
on va désactiver immédiatement. Okay, très bien.
Je finis ça et on s'y met. Enfin, on s'y met. On peut s'y mettre maintenant et je finis discrètement.
Donc, bienvenue à vous. Alors, vous êtes notre grand ponte de la soirée, notre scientifique, notre éminence intellectuelle. Vous êtes historien spécialisé dans la gastronomie de la Méditerranée orientale.
Et oui.
Et donc, vous avez 41 ans, vous êtes né quelque part.
Oui, je suis né en Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie.
Je suis de Nouvelle-Calédonie, tout à fait.
Donc vous êtes un béquet.
Ah non,
fils de béquet.
Non. Je suis un original.
Je pose cette question, c'est important. Donc,
non.
Vous êtes arrivé en métropole à 3 mois.
Je suis arrivé en métropole, trois mois, oui, on peut considérer que j'avais 3 mois, en effet. Même si je considère qu'à partir du moment où j'ai germé dans le ventre de ma mère, j'existais déjà. 12 mois, je dirais, un an.
Très bien.
Ce sont des détails techniques, bien sûr, que nous aborderons pas plus tard, parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, mon sujet, cette nourriture, c'est quelque chose qui a façonné ma vie. Et je pense que l'homme, tous, chacun, tout ce que nous sommes, nous avons ce commun de l'importance de la bouche, de l'importance de la saveur, de l'importance du goût, de l'importance de manger.
Absolument, je vois que vous avez écrit de multiples essais sur toutes les denrées et bon nombre de recettes culinaires méditerranéenne et pas que. Donc vous êtes assez justement connu pour votre calame acerbe quand il s'agit de critiques gastronomiques. Certains des plus grands restaurants vous ont redouté à l'époque où vous travailliez encore pour le guide Michelin. Il me semble que vous avez travaillé quelques années pour eux.
Oui, ça a été une aventure, ça a été un écart que j'ai voulu tenter. Car oui, je suis du côté de la science. Naturellement, je suis docteur, hein, spécialiste dans, comme vous l'avez dit, les denrées et les plats du pourtour méditerranéen et d'ailleurs. Et donc, pourquoi pas en soi, à force d'étudier, de lire, de rechercher sur la nourriture, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer. Hein, en vrai, essayer la nourriture en vrai.
Oui, donc, parce que
je me suis lancé dans cette carrière-là.
Parce que durant vos études, vous vous nourrissiez exclusivement de nouilles instantanées et que justement, oui, toute votre thèse a été écrite sans aucune utilisation de vos pupilles gustatives par rapport au mets que vous étudiez. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce que on semble avoir noté non pas une détérioration de votre palais, mais ce régime alimentaire extrêmement strict qui vous a certes valu quelques problèmes de santé, manque de fibres, etc.
Oui.
Mais ce sacrifice intestinal, pour ainsi dire, vous a été bénéfique sur le long terme et vous a fait, comme vous l'avez dit, façonner votre vie telle qu'elle est actuellement.
C'est une trajectoire. Ce sont des événements qui, naturellement, m'ont amené à évoluer et à prendre conscience aussi des différentes facettes de notre vie. Et puis le rapport au corps, très important, bien sûr. Hein, ça, c'est, aujourd'hui, on ne parle que de ça, j'ai envie de dire. Mais voilà, au-delà de ça, c'est montrer aussi que voilà, je voulais faire cette passerelle de l'intellectualité pure et totale et honnête. Je ne voulais pas être biaisé. C'est surtout ça l'idée derrière cette thèse sans avoir jamais goûté un aliment. C'est de ne pas biaiser, puisque nous avons tous des goûts. Par exemple, vous aimez le Nutella, j'imagine, Richard.
Oui.
Peut-être que...
Oui, j'ai effectivement, le Nutella... Après, au niveau gustatif, on peut comparer ce produit qui est déjà, dont on fait une promo malencontreuse. Moi, je préférais parler de pâte à tartiner. Effectivement,
vous aimez la pâte à tartiner. Eh bien,
effectivement, moi j'aime ce qui est chocolaté. Effectivement, quand le chocolat, le cacao
domine,
mélangé un petit peu de noisettes, c'est délicieux quand c'est fait, réalisé dans des proportions qui sont correctes.
Eh bien, vous êtes tout à fait conscient, et on fait des goûters chez des amis, hein, qu'on pouvait avoir des pâtes à tartiner différentes.
Oui, absolument. Oui,
et
oui.
Que chacun pouvait avoir un avis sur une marque particulière qui va varier en fonction du spectre gustatif qu'il a pu rencontrer au cours de sa carrière de mangeur.
Oui, absolument, monsieur Palpouzian. Nous savons très bien que les conditionnements culinaires des êtres humains se passent dès le plus jeune âge.
Bien sûr, Bourdieu fait un travail indirect, mais il le fait, justement, sur cet habitus. Pas que culturel. La nourriture est une culture en soi, un univers. Il nous est commun à tous. Donc voilà, c'est par l'intellectualité que j'ai pu faire cette thèse, que j'ai pu obtenir ce titre. Et donc, bien sûr, nous allons ce soir évoquer un sujet passionnant.
Oui, je vois que vous êtes venu. Donc avec... On va aborder de suite votre sujet. Vous êtes venu avec votre papier. Alors, moi, je vais jouer une franchise extrême avec vous, monsieur Palpouzian. Je n'ai pas lu votre thèse. Voilà. Très mauvais travail journalistique de ma part. Je viens ici en tant qu'animateur d'une émission radio complètement à nu. Donc, de quoi allons-nous nous parler ? Je vous écoute.
Ah bien, écoutez... Je vais vous faire le petit résumé. J'ai eu l'honneur de prendre la tête de ce groupement pour Sécrétion d'Histoire, collaboration donc avec La Fin du Monde, avec Radio Galère. Il faut dire que mon arrière-grand-tante par alliance était de Marseille, et donc ça, c'est un petit lien avec Sidi Fossène que je réussis à entretenir. Mais passons, laissez-moi vous raconter de quoi il s'agit. Pour faire simple, nous allons parler de l'origine du kebab.
Oui, les longs voyageurs aux animaux, oui.
Le kebab. Vous savez d'où ça vient, le kebab ?
Alors, de Turquie, pour moi, évidemment.
Oui.
Turquie, il me semble que c'est un amalgame de différentes viandes marinées qui vont...
Griller derrière.
Sur
à la verticale.
À la verticale.
Et de manière tournante, bien sûr.
Avec une chaleur tournante. Enfin, pas chaleur tournante, en tout cas, ça tourne autour de la chaleur, voilà.
Pour avoir une cuisson
homogène,
exacte. Homogène.
Oui, très bien. Oui, parce que ce sont des types de nourriture qui prolifèrent dans les rues de toutes les villes.
Eh bien, si je vous dis que ce sandwich que nous dégustons tous à divers moments de la journée dans divers états, eh bien, il est lié à un rhinocéros.
Un rhinocéros ?
Oui.
Et non pas un agneau ?
Non.
Enfin, un veau ou le poulet ?
Aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais la genèse ? L'origine, quasi biblique, C'est presque une arche de Noé.
Alors,
cette
écoutez,
histoire.
Je suis piqué là, effectivement. Alors, un rhinocéros d'Afrique.
Non.
Il n'y en a pas aux Amériques, donc ce sera forcément un rhinocéros d'Asie.
Exactement. Et plus particulièrement d'Inde, de Goa.
De Goa, ok.
Ah. Oui. Voilà un indice très important, Goa, puisque si nous faisons un peu l'inventaire de ce lieu, c'est une colonie portugaise.
Oui, il me semble que Goa a été...
quand les Portugais sont arrivés.
Au XVIe siècle, début du XVIe siècle.
Tout à fait. Mm-hmm. Comptoir commercial, mm-hmm. stratégie portugaise qui mettra fin à l'empire des Mamelouks, notamment, et à la grandeur des Ottomans. Tiens. Les Ottomans, les ancêtres des Turcs. Vous voyez, on commence à faire des tours. Et puis, il vient se jouer le jeu politique.
Oui.
Et c'est là que, quand on commence à gratter derrière le vernis... On trouve des petites choses très intéressantes. Et c'est ce que nous allons vous conter ce soir.
Qu'est-ce que vous avez trouvé alors ?
Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Albrecht Dürer est un graveur allemand, très célèbre, qui a produit la gravure d'un rhinocéros.
C'est la première fois... Vous faites défiler effectivement, gravure, ok, 1515.
C'est la première fois en Europe que l'on voit un rhinocéros depuis la chute de l'Empire romain. C'est dire. C'est quelque chose, c'est quasiment 1000 ans.
Et pourquoi cette extinction ? Pourquoi n'avait-il plus vu de rhino ?
Eh bien parce que beaucoup avaient été importés, il fallait aller de plus en plus loin pour les importer. Et puis, bien,
problème de logistique de transport.
Exactement,
quoi.
Et on a recommencé à avoir des capacités de transport moins sur longue distance que à partir justement de ce fatidique 15e, 16e siècle. Pas pour rien que l'on arrive aux Amériques en 492.
Oui.
Et donc, en 1514... Alfonso de Albuquerque, donc qui est gouverneur de l'Inde portugaise à Goa, envoie deux ambassadeurs auprès de Mufzar Shah II, le sultan de Cambay, dans le Gujarat moderne, pour les fans de l'Inde, pour lui demander le droit de construire un fort portugais sur une île, afin de faire du commerce et protéger leurs intérêts. Le sultan ne donne pas son accord, mais envoie quand même des cadeaux prestigieux pour ne pas froisser les visiteurs dans la plus pure tradition que l'on trouvera donc, de diplomatie sur ce continent. Et dans ces cadeaux, on trouve un rhinocéros. Il avait un gestionnaire et une jambe enchaînée. Alors, à la différence du rhinocéros africain, le rhinocéros indien, donc rhino unicornis, ne possède qu'une seule corne. En outre, son dos est couvert de plaques de peau épaisses, reliées entre elles par de la peau souple, favorisant la articulation lors du déplacement de l'animal. En gros, c'est une forme de chevalier. Une armure... Une grande épée, des plaques et une résistance à toute épreuve.
Oui, qui va quand même à plus de 35 km/h à vitesse de pointe.
C'est très surprenant quand on n'est pas du tout habitué à ce genre de choses. Très très surprenant. J'ai d'ailleurs perdu deux caméramans durant ce tournage. Affaire tragique, mais que voulez-vous ? Les assurances feront leur travail. Et donc Albuquerque, ce représentant, fait embarquer donc, ce cadeau royal dans la nef, la Nossa Senhora de Ayuda. Et le bateau donc quitte Goa, en janvier 1515, pour Lisbonne. Il escale à Madagascar, à Sainte-Hélène, 300 ans avant Napoléon Bonaparte. Ça, c'est une phrase qu'on ne peut pas dire tous les jours. Napoléon est allé sur une île, était exilé sur une île où s'est une fois trouvé un rhinocéros. C'est des fois se dire que la vie prépare des petites surprises comme ça. Et donc, ce rhinocéros arrive directement... à Lisbonne, et bien sûr, comme il y a beaucoup d'Allemands qui font du commerce, forcément, l'idée se répand, les descriptions se répandent, et arrivent jusqu'aux oreilles de notre Albrecht Dürer, qui nous fera cette gravure-là, qui célébrera le passage de cet animal. Donc le roi Manuel, il s'amuse un petit peu avec, parade, il fait ce que tous les rois font avec un produit exotique. Je pense que, voilà... Vous pouvez nous dire la même chose, mon cher. C'est le propre des puissants que de vouloir aussi s'amuser un peu avec des choses qui sont rares.
Naturellement.
Et voilà, on y reviendra. On verra justement. Et donc, le roi, après avoir fait joujou, il décide donc d'envoyer le rhinocéros au pape Léon X de l'époque, qui est un Médicis, très important aussi. Et il avait... déjà honoré le pape, il avait envoyé un éléphant blanc, appelé Anno, référence carthaginoise. Déjà, la Renaissance prenait ses racines dans les cours royales européennes. Et donc, en plus de la vaisselle, de l'argent et des épices, le rhino paré de velours, décoré, fleurs, il embarque dans magnifique caravelle en direction donc de Rome. Et c'est là que la belle ville de Marseille intervient, puisque bah, une petite escale est prévue à Marseille.
C'est le fameux rhinocéros du château d'If.
Exactement. Exactement.
Ok.
Ce fameux
très intéressant. Très intéressant. Et donc ça arrive, il arrive à Marseille quand? C'est quelle année, c'est ça?
C'est en 1515.
Très bien. C'est celui que François Ier est venu voir. J'ai lu cette histoire quelque part. Il me semble qu'il y a une gravure sur, dans le château d'If. J'avais fait la visite quelque part.
Oui. François Ier touchant le rhinocéros. Oui, ouais, très belle gravure. Voilà. La suite de l'histoire, elle est banale. Enfin, banale, si l'on veut. Le navire repart, pour Rome, bien sûr, mais tempête. Et donc, il fait naufrage. Naufrage au large de Porto Venere, qui est au nord de la Spezia, pour ceux qui connaissent un peu la géographie italienne, hein, sur la côte de Ligurie, où se trouve globalement Gênes, qui est la plus grosse ville de la zone, ou les Cinque Terres, pour les fans de tourisme et de surtourisme. Et donc, ben, ce pauvre rhinocéros, enchaîné, malheureusement, fut incapable de nager donc, et se noya.
Pauvre bête.
Pauvre bête, en effet.
Ça me rend tout triste.
Non, ce qui est déjà assez... Enfin, moi, j'essaie de me poser quelques questions et de me mettre dans la peau de ce rhino un petit peu, et de me dire déjà, partir de l'île de Goa, de me faire le trajet côte ouest africaine, cette petite escale à Madagascar, c'est déjà quand même un sacré périple.
Vous imaginez, charger, décharger un rhino,
besoin
que ça accumule pendant le trajet.
Je me demande le cartahu assez impressionnant qu'il doit... que les marins doivent mobiliser pour soulever une charge aussi imposante, la stabilité du navire notamment, hein, s'agite, et le passage du Cap Horn. grande aventure. Ça a dû vraiment swinguer pour lui. Et une des questions que je me pose, je ne sais pas si vous avez peut-être la réponse, est-ce que un rhino, ça vomit? Ça a le mal de mer ou pas?
Ça ne vomit pas. Ça ne vomit pas, il n'y a pas de
témoignage.
On a retrouvé
Albuquerque qui n'en parle pas dans son journal de bord.
On a retrouvé le journal, il n'y a pas de mention.
Pas de mention de ça, non.
De vomissement. Bon. Par contre, qu'est-ce que ça dégage de l'autre côté?
Ouais, ça j'imagine.
Ça
voilà.
A été un énorme problème.
C'est quoi? C'est
énorme problème.
10 kilos de merde par jour à peu près?
Ça mange 30 kilos de foin.
30 kilos de foin.
Date. Et c'est. Oui, c'est ça, c'est à peu près 10 kilos tous les jours. Quoi. Donc il faut. Bien sûr, transporter du fond de la cale pour jeter par-dessus bord, etc. Malheureusement, ça attire aussi des prédateurs, des choses comme ça. Donc, impossible de pêcher pendant le trajet. Il faut faire des stocks de nourriture conséquents, déjà pour l'équipage, naturellement. Hein. Et puis,
déjà qu'à l'époque, la nourriture des marins n'était pas encore ce qu'elle est actuellement.
C'est ça. Alors, imaginez manger cette nourriture.
Le scorbut, sans escale, et la difficulté à entretenir une eau potable sur du long cours était difficile.
Oui.
Le scorbut.
Manque d'agrumes, bien sûr, manque de vitamines, la nourriture très séchée, du grumeau, des choses qu'on peut emporter. Mm-hmm. Je pense que.
Mm-hmm.
Voilà, c'est...
À Noudrebog, nous n'avons pas de problème, mais oui.
Ça représente combien sur
Oui, Petgraf Augustule.
Sur une cargaison. Une cargaison entière, on va dire. Combien de nourriture en pourcentage vous devez embarquer par rapport au nombre d'animaux? Parce que vous devez rester quelque part. Ça, c'est
du 30% à peu près de la cargaison totale.
30% c'est de la nourriture. Et en termes de diversité.
On a beaucoup de foin.
Beaucoup de foin, très bien.
Beaucoup de foin. Pour les carnivores, on a des cadavres d'animaux, des cadavres de chèvres, des cadavres
surgelés, tout ça.
Donc vous avez une boucherie directement intégrée dans le navire?
Non. On achète avant de partir. On fait plusieurs escales.
Ok.
Et on achète ou bouger.
Je vois que vous êtes le quatrième exportateur, entre guillemets, en tout cas le quatrième acheteur de chèvres à Madagascar. Vous suivez l'antique route qu'avaient pris les Portugais pour ramener ce rhinocéros, ça, c'est un petit admirable. Donc vous avez une chambre froide gigantesque, en fait, dans le bateau.
Qui prend à peu près la moitié de la place.
Ok, ouais.
Donc en comptant, on a 50% pour la nourriture des animaux, 25 bourzans pour les cardiers de l'équipage et 25 bourzans pour les animaux.
Très bien. C'est vrai, mais vous avez même dernièrement intégré un nouveau dispositif où dans la chambre froide, vous pouvez également stocker des pingouins, des manchots également, j'ai vu. C'est votre futur navire.
On avait le test la semaine dernière, qui a été assez concluant. On a eu 5 pingouins survivants sur 10, donc...
C'est prometteur.
C'est une victoire. J'appellerais même ça une victoire.
Et qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez déjà déduit la cause de la survie de ces pingouins ou...
Pas encore. Mes équipes sont sur le sujet, mais je dirais que la température n'était pas forcément idéale.
Il y a eu des ruptures de chaînes de froid, comme on dit.
J'ai bien peur, surtout qu'on a eu quelques animaux malades.
D'ailleurs, on va passer de suite un extrait de la boîte noire de votre navire durant un de vos voyages où il s'est passé pas mal de choses. On s'est procuré quelques extraits. On fait tourner de suite à la régie.
Bon allez, dépêchez-vous les veignants là. Il va passer vers 12 sols sur Inazeros.
Oui, bon. C'est pas le premier.
Hein. Ah non, c'est pas le premier. Hein.
Le premier, c'est pas le dernier, ça c'est sûr. Si toi t'arrêtes la boîte, nous on va essayer de continuer.
Ah bah j'espère bien, oui, je vous ai pas formé pour rien. Hein.
Ah, c'est vrai que t'avais vachement été ça. Nous a recueillis.
Surtout que notre client spécial ravole des rhinocéros, donc prenez-en soin. C'est un secret entre lui et moi.
C'est le quart de qui là pour aller nourrir les lions?
Je crois que c'est Christophe.
Oh putain, j'en peux plus là les gars. Ça fait 3 fois aujourd'hui.
Ouais bon. Oui, enfin c'est compliqué de faire des plannings. Excuse-moi, je fais ce que je peux.
Il y a quelque chose que tu ressens de...
Pas non plus des milliers, donc oui, des fois, je suis un peu bloqué. Donc je te cale 3 jours d'affilée, et puis t'es pas le seul, hein, je te rassure, tout le monde y a droit.
Ouais, sauf le capitaine.
Oui.
Non mais regarde le planning, regarde le planning, regarde. Ça fait 5 mois d'affilée, si je remonte le planning dans les 3 derniers mois, c'est jamais arrivé ça. Moi,
j'ai un peu de la part. Attention, on a une alerte avec les singes.
Ah.
Ils sont en train de... Nine. Ils sont en train de m'attaquer, vite, venez m'aider. Ah, saloperie. Ah, scheisse. Saloperie de macaque. Nine, tu mourras pas cette fois, attention.
Voilà, c'était un court extrait. Comment ça s'est terminé cette histoire avec le singe alors?
On a dû le jeter par-dessus bord parce qu'il était trop agressif. Il a été apeuré par la tempête, donc... vous savez, on a le droit à 10% de perte. Par cargaison, donc on n'est pas un singe.
Les assurances vous couvrent jusqu'à 10%.
Yeah.
Attends, je crois que... Ah oui, mais j'avais pas fini l'extrait. Attends, allez-y.
Allez, vas-y, dégage de là, saloperie.
Patron, qu'est-ce que vous avez fait?
Boss Badro de Guesdion.
Effectivement, quelque chose d'assez clair. Ça arrive souvent ce genre de péripéties maritimes.
Surtout quand on passe le Cap Horn.
Surtout quand on passe le Cap Horn. C'était à ce moment-là, oui. Effectivement, yeah. Je vois sur le GPS l'emplacement. Oui, à 300 miles du Cap Horn à peu près.
Et ça a sûrement une importance dans notre histoire.
Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose
Eh bien, nous y viendrons peut-être au cours de l'émission. Bien sûr. Nous aurons le temps d'aborder, c'est tout bonnement passionnant.
Absolument. Je vous propose un court interlude musical pour revenir ensuite poursuivre ce numéro de Sécrétion d'Histoire où nous allons découvrir les véritables origines réelles du donneur kebab. A tout de suite. Restez sur les ondes. Kakonja na kapea miti kuna nduru gizani tititi bobo shanta ya dushka wika o mama santo kaka nyundo msumeno tunapaka nana nyonga nduru cheza chini kawa iguru guru we mtamu kaskari nguru nguru bakora kakondani sini turu kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako.
Wolan chapa ilali, chapa igande, nita kirere, nita chapa inyambe, kisha inipe kichwa nikiwasha ingale, juu tuko maji basi wacha izame. Kidem, kidem, indo bazeng, bazeng, kuto kililia basi kidem, kidem, na kusoma macho uki pretend, pretend, mi ukata maji tuma weekend, weekend, candidate kata wiki ina depend, depend, when shallow end ama depend, depend, unataka lion ama kiden, kiden. Sura na kupeka five haga kiten kiten.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Ojungulo family. Watagwan watagwan.
Sayo Senimaya Boingo machi kerse wonengo komom Halebuya rumani amomom Yali geilu melni amulo morom Askefu bakti mani ay borom Mula tude mani mo yaro Salige la Akhale bile mani mo yaro Salige la Mula tude mani mo yaro Salige la Akhale bile mani mo yaro kenn melni yow sayuma la fene xol bi dal ci yow ha mané yalla samla he mané yalla samla do inga ma ci kerse wonengo komom haleluya rumani amomom yalli geylu melni amulo morom askef ju barki Kayaro.
ดอกตะกันเพลิงตะโรดอกตะลูกแตกตะโรดอกตะยนตะโรมยาบาดเนี่ยจำจังไงยามเมื่อกูยะยามเมื่อเนี่ยจะไปเตะเนี่ยจะไปจับปวดแผลเลยใส่เด้ชะกาวตะกวนละกวนละ
Oh.
costura, ya o cap de la costura, ya cap mi pausa, costura, ya cap mi pausa, costura, ya cap mi pausa, ya cap mi pausa, costura. E quan la pebute se te, quan la pebute se te, quan la pebute se te.
Sa feuille son ça, la rosée
prend pas dessus.
Midi sa feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Ôtez sa feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Wouh, feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Ôtez feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Midi sa feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Ôtez feuille son ça,
la rosée prend pas dessus.
Thank you.
Radio La Fin.
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 Du monde, du monde.
Radio La Fin du monde. C'est question d'histoire.
C'est question d'histoire. C'est question d'histoire.
T'aimes ça les histoires, hein?
Question d'histoire. Il y en a partout. Il y en a partout.
Il y en a partout. C'est question d'histoire. On se retrouve sur les ondes de Radio Galère 88.4 pour La Fin du Monde, les dossiers de sécrétion d'histoire pour un postulat authentique et tout à fait inhabituel qui corrobore non pas la version officielle, mais le travail acharné des mythes, des vers de terre qui vont gratter dans les archives, collecter, sécréter. Après un travail acharné de recoupement, c'est ainsi que les équipes de sécrétion d'histoire ont réussi à faire la lumière sur ces événements et sur la genèse d'un mais aujourd'hui démocratiquement incontournable pour les papilles gustatives de l'ensemble du monde occidental et oriental. Et on va jeter un pavé dans la mare. En effet, si on... D'après le postulat de nos invités, donc qu'on va refaire un petit tour de table, hein, Monsieur Petgraff, Augustul, bonsoir à nouveau.
Bonsoir.
Ancien marin retraité, spécialiste dans le transport maritime des animaux. C'est vous qui avez un petit peu fait l'expertise scientifique du voyage de ce rhinocéros depuis l'océan Indien jusqu'aux contrées de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Hein, et c'est vous qui avez également permis, en collaboration avec Guideur Palpouzian et Yoni Carlels Pouyol, qui devrait arriver dans quelques instants. Il me semble qu'il avait un train à destination de Saint-Charles pour 23h15. Il devrait arriver incessamment sous peu.
C'est les vacances. Il y a du monde.
Oui, tout à fait. Bliss en Bouca, je vois que vous avez fini de déguster votre kebab. Alors, ça fait quoi après les dernières informations qui nous sont parvenues? Qu'est-ce que ça vous fait à vos papilles gustatives là?
Eh bien, c'est vrai que maintenant, déjà que ce soit du rhinocéros, enfin c'est le postulat, ça m'intrigue fortement. Et il y a la notion aussi d'épices qui revient fortement, hein, à l'Inde, tout ça, Goa, bon. Et je suis resté perplexe, ça n'avait pas la même saveur. Et pourtant, je suis allé chez mon maître kebabi habituel, enfin mon habituel, je l'appelle, bien sûr. Tellement je vais chez lui, il me voit matin, midi et soir, hein, dans certaines périodes. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il y avait quelque chose de plus. J'ai senti l'histoire dans ma bouche. Je l'ai senti dégouliner, je l'ai senti entre mes dents. Je l'ai senti en train de me créer une future carie. Et je l'ai avalée tout entière.
Pour rafraîchir un petit peu la mémoire aux auditrices et aux auditeurs qui nous prennent en cours de route, ce dossier de sécrétion d'histoire aborde la genèse du donneur kebab ou kebab donneur. Un mets dont l'origine est attestée depuis la fin du XVIIe siècle, paraît-il. Mais aujourd'hui, on se rend compte, après l'authentification de nouveaux documents d'archives, qu'après le naufrage, ce naufrage n'aurait pas eu lieu au large dans le golfe de Gênes. Donc en décembre 1516, vous affirmez, Guildehor Palpouzian, que nenni, son escale à Marseille fut
non, pas du tout, au contraire même. Au contraire, sur l'antépénultième, avant-dernière même.
Vous dites que justement, là, ce rhinocéros va cristalliser toutes les tensions géopolitiques qui sont inhérentes à ce début de 16e siècle, qui, pour le rappel, on est à deux décennies, même pas, après la découverte des Amériques par Christopher Columbus et les prémices donc des génocides qui vont suivre, des maladies sur l'île de Cuba, etc. Bon, voilà, on ne va pas vous refaire toute cette histoire-là, mais les tensions en Méditerranée à ce moment-là sont immenses. Donc avec ces puissances occidentales menées avec le Saint-Empire romain germanique et les troupes de Charles Quint qui sera à peine, même pas encore couronné. Là, on est encore sur papa maman qui des Habsbourg. Voilà.
Sur la Genève.
Lui, il est encore en train de dans la jupette d'Erasme pour son éducation. On sait déjà que les prochaines élections vont être cruciales. Et qu'est-ce qui se passe en France ? En France, c'est pareil, hein, la royauté, le royaume bascule, hein, après cette bataille de Marignan, où on va avoir le successeur de l'immense Louis XII, l'inégalable, qu'on le salue d'ailleurs, s'il nous entend.
Louis, toi.
François Ier, bataille de Marignan.
1515,
voilà. Qui est François Ier alors ?
François Ier, eh bien, c'est un petit héritier, quoi. C'est un monsieur qui se voit...
Déjà, il est grand, il est fort.
Oui, oui.
Il a une belle moustache. Grand,
une très belle barbe. Il est beau gosse. Hein,
il est beau gosse. Ah.
Voilà. Il est avantageux. Il ne laisse pas insensible. Voilà. Ça fera partie de sa diplomatie, d'ailleurs. Mais bon, n'en parlons pas.
Il aime la ripaille.
Il jouit d'un statut tout nouveau de chevalier, puisqu'il est fait chevalier. Il est revêti son armure pour la première fois juste avant Marignan. Hein. Enfin, c'est quand même... Alors, il a été entraîné dans sa jeunesse, bien sûr, mais voilà, c'est un nouvel homme, sûr de lui-même, fort. Hein, fort d'une belle bataille, d'une belle victoire. Et qui donc va se présenter...
en tout cas, les livres nous la présentent ainsi. Apparemment, l'historiographie nous montre que cette bataille... Voilà, on en fait un petit peu des pataquès, mais que d'un côté, il faut marquer le coup quand y a un nouveau monarque, voilà, donc on enjolive tout ça, histoire de créer un petit peu d'engouement, quoi.
Car Marignan n'a mené à rien, au final.
Absolument. Bon, l'utilisation de quelques canons, hein, dont François Ier va se faire un petit peu extrêmement gourmand. Hein. On sent déjà donc voilà une appétence pour la poudre à canon qui, elle, pour le rappel, voilà l'artillerie qui est découverte par les Occidentaux, notamment au siège de Constantinople, hein, la chute de Constantinople.
Oui.
Avec le fameux basilic, donc non pas évidemment la plante vivace, on parle là, évidemment du canon de près d'un mètre de diamètre, hein, qui malgré sa taille n'a pas réussi à fendre assez grandement les fameuses murailles de Constantinople. Voilà. Malgré tout, ont suscité la terreur, hein, au sein des troupes, quoi. Un boulet de canon était capable de jouer au quilles avec une cinquantaine d'hommes en armure, transformer en coulis de tomates, quoi.
Évaporé.
C'est une idée d'ailleurs, à partir de là, les Italiens, la sauce tomate, justement, après les premières importations de plants venues des Amériques.
Les Byzantins réfugiés qui sont arrivés à Naples, qui recréer leurs troubles psychologiques et leur vision grâce justement à ce fruit nouvellement arrivé, la tomate. Tomate rouge.
Donc François Ier, 1515, il vient d'être fraîchement couronné après la bataille de Marignan. Et il y a dans cette fameuse gazette, il a son messager qui l'informe de la venue de ce rhinocéros qui doit être amené à Léon X, qui va faire, on s'est dit, escale à Marseille. Il accepte, il se dit, allez, bon, donc il descend avec sa cour. Et puis voilà... une rencontre de quelques jours. Il s'embarque sur une petite barque dans le vieux port, dans le port de Marseille, hein, qui n'était pas encore vu à l'époque, avec sa cour. Donc le pachyderme était assez docile, paraît-il très heureux de redécouvrir un petit peu la terre ferme et de pouvoir gambader. Certes, c'est l'équivalent de 4 terrains de football.
C'est pas énorme.
Ouais, il faut imaginer, je ne sais pas pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez eu la chance d'arpenter l'île Audif, vous imaginez que c'est pas très très grand, vous enlevez la citadelle, la prison, voilà, c'était tout plat, quoi. C'était comme ça. Pas grand-chose du tout, donc pour ce pachyderme, on ne pouvait pas forcément aller à l'eau de mer. D'ailleurs, on imagine l'embarquement et le débarquement assez difficile, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Petgrave, sur ça ? Vous avez analysé, vous avez pris la navette maritime Edmond Dantès, vous avez fait le tour de l'île Audif, vous avez analysé les roches, vous avez analysé les crevasses. Pour vous, voilà...
Non,
qu'est-ce que vous en avez pensé alors ?
Ce n'est pas l'idéal pour un animal de la Zorde, ça c'est clair.
Oui, mais avec les bateaux de l'époque aussi, et les différents cartes à U, est-ce que c'était pas une manœuvre, enfin, est-ce que vous pourriez, avec quel type de bateau ? Voilà, expliquez-nous là, aujourd'hui. Allez, on se fait une mise en situation de monsieur Petgraff. Mise en situation, vous avez là un rhinocéros de 4 tonnes, d'accord ?
Mm-hmm.
4 mètres de long, 4 tonnes, vous devez le transporter, d'accord ? Et vous devez l'amener sur l'île Audif. Voilà. Vous faites comment ? Vous passez par où ?
Alors,
les auditrices et les auditeurs vous écoutent.
Je pense que je fais le tour par la côte ouest avec mon Zuber Tanker. Et ensuite, je la décharge à l'aide d'une grue incorporée à mon bateau.
Ouais, mais cette grue, décrivez-moi cette grue. Moi, la question que je me pose, avec les moyens de bord du XVIe siècle, voilà. Moi, donnez-moi des données. Vous êtes logisticien, non ? Vous êtes surnommé le transporteur, bah, c'est pas pour rien.
Je suis surnommé le transporteur, mais pas le transporteur du XVIe siècle. Je suis désolé, je ne suis pas non plus spécialiste de la gruterie du XVIe siècle, à mon avis.
Ok, je vous prends peut-être de court, monsieur Petgraff, je m'en excuse. Monsieur Palousian.
Oui.
Palpousian.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des moyens techniques de l'époque, de chargement et de déchargement ?
Bien, naturellement, on n'a pas encore le fer ou l'acier. Hein. Donc, on se repose sur des structures en bois. Hein. On connaît bien sûr le principe de la barge. Naturellement, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une barge intermédiaire qui va permettre donc de faire en sorte que la galère n'approche pas trop du récif de Dif. Hein. C'est quand même des bateaux impressionnants. Je pense que le grand public ne réalise pas à quel point vraiment la construction de bateaux au XVIe siècle évolue. Non, c'est vraiment incommensurable. Quoi. On triple la taille des bateaux, vraiment. C'est tout simplement, on triple le tonnage hein, et on triple donc la nécessité du commerce. Et donc, voilà, pour vraiment trouver un engin capable, il fallait donc une barge spéciale. Hein, c'est d'ailleurs une barge qui a été construite dans le port de Marseille. Hein, c'est pour ça que François Ier, d'ailleurs, a fait de Marseille l'arsenal royal. C'est tout simplement parce qu'on avait ce système de barge qui permettait de charger les galères à l'extérieur du port et donc éviter les embouteillages avec diverses marchandises qui pouvaient entrer et sortir de la vibrante ville de Marseille.
Vous avez écrit un merveilleux papier qui est paru dans la revue Marine, où justement vous faites l'analogie entre l'escale de ce rhinocéros qui a duré 4 mois, et que justement, si elle a duré autant, c'est que le défi technique du réembarquement était tel qu'il a fallu aux équipes de charpentiers le développement de cette barge intermédiaire qui fut le fleuron ensuite technique de la ville de Marseille, notamment utilisé pour le carénage des navires, hein, l'abattage en carène tel qu'il était effectué dans ce que nous appelons actuellement le bassin de carénage à Marseille. Vous pouvez trouver de merveilleuses gravures qui se vendent dans la boutique des Arsenaux, voilà, qui vous présenteront ces gravures, comment on procède à l'abattage en carène. Et donc dans ce papier, vous dites que c'est au bout de 4 mois qu'ils ont enfin trouvé cette solution et que fissa, en fait, c'est dans cette nuit d'hiver où 3 jours de tempête sont arrivés, où il fallait à tout prix embarquer, que le point de césure est arrivé fatalement.
Oui. Dans l'histoire, on nous dit le rhinocéros a embarqué et puis il est reparti. Dans les faits, le rhinocéros avait disparu au petit matin. Et oui, ce rhinocéros n'est pas mort au large des côtes ligures, un petit peu au nord de la Spezia. Non, ce rhinocéros ne s'est pas volatilisé naturellement. Il a été subtilisé. Et j'en veux pour témoin ce journal de bord qui a été retrouvé dans la Casbah à Alger, dans une cave, qui était le journal de bord du responsable. Eh bien justement, chers auditeurs, nous avons de la chance. C'est à ce moment-là que débarque notre ami spécialiste. Hein. J'accueille donc bien sûr sur le plateau d'or à la fin du monde, Madame Gioni Carles Pugliol.
Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc moi c'est Johnny et donc moi je suis politologue, spécialiste des relations franco-ottomanes au XVIe siècle, notamment avec cet intermédiaire avec la régence d'Alger. Et j'ai été la femme de ménage de Fernand Braudel sur sa fin de vie. Voilà, on était quatre étudiantes à s'occuper de lui, faire des roulements.
Vous occupiez de lui,
ouais. Oui, nous étions ses auxiliaires.
Alors, votre mémoire de recherche porte sur la nourriture dans les traditions diplomatiques du pourtour méditerranéen. Et donc, justement...
Pas que, mais oui, essentiellement. Oui.
Essentiellement. Hein. Et donc, vous venez d'Islande également ? Ce n'est pas un parcours très, très commun. Comment est-ce que vous êtes passé de l'Islande aux relations politiques de la Méditerranée au XVIe siècle ?
Écoutez, c'est très simple. Quand j'eus 15 ans, je me suis posé pas mal de questions sur mon identité propre. Certes, je suis né à Reykjavik, mais j'ai pu voir et ressentir très très jeune le regard de mes confrères et sœurs que me portaient. Donc j'ai les cheveux crépus, comme vous pouvez le voir.
Oui.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'histoire, notamment au tabou de cette île où nous sommes actuellement presque 200 000 et voilà, parfois nous sommes raillés un petit peu dans le reste du monde parce que il est vrai que nous pouvons nous rapprocher facilement de ce que d'autres cultures peuvent appeler de la consanguinité au vu voilà du faible mélange du patrimoine génétique au vu de l'isolation de ma chère île natale. Cependant, je me suis rendu compte que l'Islande n'avait pas toujours été isolée. Et que notamment, l'Islande avait subi pas mal de raids de la part des pirates barbaresques au cours du XVIe et du XVIIe siècle.
Jusque-là, quoi.
Et jusque-là. Et c'est là, donc, moi, je m'imaginais, sincèrement, comment les Arabes faisaient pour arriver jusqu'à la banquise. Moi, c'était ça. Et j'étais extrêmement fermé d'esprit à cette époque-là. Je raisonnais mal, vraiment. Et donc, je me suis chagriné à vouloir redécouvrir mon identité. Donc, j'ai entamé ces études de politique pour pouvoir justement mener ces recherches, accéder au meilleur réseau universitaire. Et ça met 27 ans que je me suis retrouvé à Paris, quelques mois après mai 68. Voilà, l'université de Vincennes, rencontre des penseurs venus de partout. Mais voilà, c'est une expérience humaine. J'ai pas de mots pour vous expliquer. Si j'ai un livre à vous raconter, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver dans les librairies. Ça ne vous dérange pas si je fais un peu de placement
de produit ? Non, bien sûr, pas de souci, Johnny, pas de souci.
Et donc voilà, je suis ici dans cette émission pour apporter mon expertise. Merci de m'accueillir. Désolé du retard, le train a eu un peu de retard. Je viens de Belfort.
Ah oui, quand même, le territoire de Belfort, assez éloigné donc. Eh bien, justement, donc après cette fameuse grue qui a été développée à Marseille, donc, dont on a retrouvé les plans dans les archives municipales, il y a cette disparition. Et là, Johnny, voilà, le contexte, François Ier, les Habsbourg en face, le titre pour le Saint-Empire romain germanique, la gloire, etc.
Non, moi j'étais, oui...
Et les Ottomans et les barbaresques d'Alger, quoi.
Lorsque M. Palpouzian m'a contacté pour me soumettre cette série de documents et ce journal de bord, notamment, j'étais d'abord extrêmement perplexe. Parce que ça sous-entendait que de la part des autorités papales et également des autorités monarchiques françaises, il y avait eu concertation sur la falsification de documents. Et donc la seule raison pour une collaboration aussi étroite à un basculement dynastique de cette époque, c'est qu'il a dû avoir un fait diplomatique extrêmement grave. Et c'est là où l'importance de faire la connexion entre les archives des uns et les archives des autres. Oui. C'est souvent, c'est quand on va essayer de se mettre à la place de l'autre, surtout d'une autre rive, comme on peut le faire grâce à la Méditerranée, ben on en découvre. Et donc ce journal de bord retrouvé à la Casbah, d'abord la traduction a été assez fastidieuse. Mais après quelques mois de concertation aussi, on s'est mis d'accord, parce que c'était assez incroyable. Il y avait dans ce journal de bord, en fait, on a retrouvé un manuscrit, un parchemin, et qui portait le sceau de Kahir ad-Din Barberousse. C'est là où on nous a mis un petit peu la puce à l'oreille.
Légendaire corsaire.
Légendaire corsaire. Alors, pour peut-être resituer aux auditrices, aux auditeurs, le corsaire ou les corsaires Barberousse, les frères, les fratés, comme ils pouvaient s'appeler. Enfin, voilà, à la base, il y en avait plusieurs. Mais bon, il y avait Harudj d'abord. Donc, Harudj, il s'est fait connaître après la chute de Grenade, lorsqu'il a commencé à aider les populations réfugiées, hein, les juifs, les musulmans qui devaient fuir le décret de l'Alhambra et sa promulgation. Donc il s'est fait connaître en tant que transporteur.
Peut-être un de vos ancêtres, qui sait.
Et voilà, donc il était originaire de la Méditerranée orientale. Il est né sur l'île de Lesbos, donc voilà, on peut imaginer que c'est une île clairement qui a subi les affres du tumulte des empires qui se font la guerre sur des petites portions de territoire. Donc ils étaient turbulents, etc. Et donc quand il s'embarque, il va rapidement se faire connaître par les sultans locaux, faire grandir sa réputation. Évidemment, l'appel un peu de la monnaie et l'altruisme peut-être un petit peu. Voilà, et surtout moyen de se faire quelques piécettes pour marquer tout ça de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc à côté de ça, il faisait corsaire, quoi. Et corsaire, donc avec la... Et il avait son petit frère qui l'avait rejoint. Bon, lorsqu'Harudj va mourir en 1517, en fait, il y avait son petit frère qui avait été chargé de cette mission, justement, une mission d'espionnage pour le compte de Mehmet II. Harudj lui avait fait confiance, et c'est la lettre d'Harudj en fait qu'on retrouve là qui va donner les ordres précis à Kahir ad-Din de se rendre à Marseille pour justement intercepter un colis que devait recevoir le pape Léon X. Et en fait, il était également le tuteur à cette époque-là. De ce qui sera le futur Soliman. Alors qu'il avait à cet âge-là, il avait 10-11 ans. Il était très jeune. Mais
on parle bien de Soliman le Magnifique.
Oui, tout à fait, Souleyman.
Le grand Souleyman, le paraître de François Ier, et la terreur des monarchies européennes. On parle bien
absolument. C'est ça, il était âgé de 12-13 ans.
Donc à Marseille, en train de voler un rhinocéros, quoi.
Alors c'est pas lui qui l'a fait directement. En tout cas, je pense qu'il a pu, l'observer. Il a pu se le servir. On l'a bien vu dans les rapports qui sont détenus à Istanbul, que notamment dans le grand port d'Atmara, qui est l'arsenal d'origine des grands navires et des galères ottomanes qui ont fait leur réputation à les pentes, etc. On a retrouvé dans certaines archives, la liste d'embarquement de certains chebecs qui étaient à cette époque-là des navires complètement novateurs, qui ont été testés justement pour leur rapidité et leur furtivité. Et donc on atteste de l'usage de ces chebecs pour une mission d'espionnage dans le bassin occidental.
Infiltration.
Trois chebecs. Okay. Franche-Ébec qui sont partis, qui ont fait escale sur les îles d'Hyères. Parce qu'on a retrouvé justement des feux de camp fossilisés. Hein. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des traces de aînés, tout ça, d'encens, de
soie, de hachis,
tout ça, qui ont été compactés dans le sable. Et qui, à la datation carbone, on a pu attester qu'effectivement c'était bien. Et on a retrouvé notamment sur une de ces soieries, encore une fois, le sceau. De Mehmet II.
Soit impérial ottoman,
tout à fait. Donc voilà, c'est corroboré factuellement avec des items qui sont présents, qu'on peut retrouver au musée de Grasse, dans une petite section qui n'est pas ouverte au public, sauf sur réservation les mardis.
Je suis sûr que le musée de Grasse recevra maintenant beaucoup plus de monde le mardi. On le souhaite. Alors, ça, c'est la première étape, hein. Le lien avec le kebab.
Écoutez, on y vient d'abord parce que justement, lorsque cette mission d'espionnage amène à la découverte du pachyderme, se posent deux questions. Est-ce que ce colis doit être véritablement ramené ou est-ce une mission suicide, kamikaze? Bon, ils n'employaient pas ces termes à cette époque-là, mais Kher Eldin s'est posé la question. Et on pense qu'il a subi les pressions du jeune Soliman.
Ce serait un caprice impérial d'une certaine manière.
Écoutez, je ne dirais pas ça, mais cependant, on a attesté donc d'un chébec avec l'empreinte fécale du pachyderme.
Des relevés. Ok.
Qui aurait fait escale, donc notamment à Hyères, à nouveau, sur le chemin du retour.
C'est l'une des prises
dans
de
la région des Pouilles, près des Brindisi. Nous en avons profité pour effectuer des raids et des razzias afin de se ravitailler. Et justement, les habitants de Brindisi attestent de l'utilisation. Enfin, les Ottomans auraient Turc. Utilisé le pachyderme comme char d'assaut.
Oui, on a un très bon récit du XVIe siècle qu'on trouve que les scientifiques n'arrivaient pas jusqu'ici à placer, on va dire.
Absolument, mais il y a une omerta.
Il parle, quoi.
Il y a une omerta. Il y a une omerta parce qu'en fait, ce cadeau diplomatique semblait si important pour le maintien des relations diplomatiques et commerciales entre le Portugal et la papauté, qui était, pour le Portugal à cette époque-là, était en pleine émancipation, la découverte de la côte ouest, etc. Ils étaient en avance en plus avec les techniques de navigation. Certes, ils avaient pas mal de passages, de cerveaux, comme on dit à l'époque, qui fuitaient, quoi, qui des transfuges de nationalité, quoi.
Oui, qui allaient sous prétexte de
Christophe
de,
Colomb, génois,
commerce,
qui passent son cul à l'Espagne. Sans vouloir vous enfoncer.
Oui, c'est le temps des navigateurs, de ceux qui ont les ongles qui grattent, quoi.
Absolument. Et donc ce chébec revient à Istanbul. En fait, c'est là où les travaux de M. Palpouzian sont essentiels. C'est parce que c'est lui qui a pu poursuivre dans ce territoire à Istanbul en étant de double nationalité. Il a pu avoir accès à des archives auxquelles moi, malheureusement, en tant que femme, je ne pouvais pas avoir accès.
Oui. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons pu du coup nous partager le travail de cette manière. Hein. Il faut voir le positif, bien sûr, toujours. Et donc, le récit de ce rhinocéros, eh bien, on en retrouve justement les archives, mais dans une section qu'on n'attendait pas forcément. Voilà. On est plutôt dans la section recettes. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Hein.
Alors oui, l'interview de Johnny était super intéressante. Guy Dehors, cette recette, vous l'avez trouvée où?
Eh bien, cette recette, ça a été fait donc, pendant la modernisation d'Istanbul, hein, l'actuel Istanbul. On a mené donc des fouilles préventives puisque ça se déroulait juste à côté du palais de Topkapi. Hein, et notamment, vous aviez les archives impériales
qui est donc situé juste à côté du palais. Topkapi, magnifique, avec sa céramique, bien sûr, hein, qui met à l'honneur Izmir. Malheureusement, la coulera de par cette exclusivité. Mais voilà, toujours est-il que c'est l'antre des sultans. C'est là que voilà, on a toute la matière, on a l'histoire. C'est là que se prennent les décisions. Et c'est là qu'arrive le jeune Soliman. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et certes, Johnny a une certaine réserve, bien sûr, quant à l'évocation de la raison qui pourrait amener, je pense, le rhinocéros. Moi, personnellement, quand je lis donc les carnets donc du jeune Soliman qu'on a retrouvé, hein, son journal intime, il y avait beaucoup d'évocations de ce rhinocéros, et des évocations qui relevaient du domaine culinaire. Alors, dire oui, bon. Sauf que Soliman, après quelques petites recherches, on se rend compte qu'en fait, il a beaucoup, beaucoup d'appétit. Et il a surtout un appétit très particulier et très développé. Quand on est au centre de cet empire, qui lui-même est au centre des routes des épices, des routes de la soie, hein, carrefour commercial, naturellement, on a accès à beaucoup, beaucoup de choses. Et nous avons la chance hein, d'avoir justement un écrit formidable qui est un roman d'aventure, imagé hein, bien sûr, un petit peu mythifié. Hein, mais ça s'appelle donc le Chef des Pachas. Les aventures du Chef des Pachas, qui a notamment donc inspiré ce film français où on voit la nouvelle cuisinière de l'Elysée, etc. C'est une inspiration qui est directement liée à l'Empire ottoman et à ce chef des pachas. Et il y a tout un épisode hein, que l'on peut interpréter, qui est masqué, mais si on étudie à peu près la littérature ottomane et la poésie, bien sûr, on trouve rapidement des pistes. Bon, on a consulté les meilleurs spécialistes locaux, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, on a découvert que ce chef avait préparé un rhinocéros en l'an 1515. Voilà, tout était écrit, hein. C'est un peu comme les livres saints, vous savez, la Bible, la Torah, c'est toujours rempli d'images, de symbolismes, etc. Hein. Eh bien, dans ce récit, qui mêle donc religion, fantastique et poésie, on arrive justement à identifier une vérité historique qui se corrobore hein, par l'apport de nombreux témoignages, documents et œuvres d'art et objets du quotidien. Et donc, le postulat, c'est que bah, Soliman, il a juste voulu bouffer le rhinocéros. Il n'y a pas...
Mais pourquoi?
Parce que justement, c'est un curieux. C'est un curieux. Il fait ramener, par exemple, on a une note, ce sont des antilopes. On payait jusqu'à 12 000 ducats pour une antilope. C'est énorme pour l'époque, 12 000 ducats, hein, pour pouvoir se faire juste un steak. Steak d'antilope. On va le voir également demander du dragon de Komodo. Oui, parce qu'on avait accès hein, à l'Inde, qui elle-même avait accès à l'Indonésie. Hein, et donc... on a retrouvé voilà.
Tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il ne connaissait pas, il voulait goûter.
Toutes les notes de frais, entre guillemets, quoi, du jeune Soliman. On a retrouvé tout ça dans les archives qui étaient justement consacrées aux cuisines de Topkapi. En général, on va fouiller dans les décisions des sultans, et décisions politiques, religieuses, les édits, les décrets. Alors là, on est allé fouiller le menu, en fait, tout simplement. Les Ottomans qui ont su mettre en place une administration féroce dès le départ, parce que c'est un empire qui a quand même duré jusqu'à à peu près en 1923, hein, et fondé à la chute de Constantinople, 15e siècle, et quasiment jusqu'en, vous vous rendez compte, 1924.
C'est 1432-1924.
Donc ça fait 400 ans d'histoire. 400 ans au centre des manœuvres politiques, 400 ans à être attaqué à gauche, à droite, par les Européens, par les peuples des steppes, par les Ghaznévides, qui donnera l'Afghanistan un petit peu plus tard. Enfin, voilà, c'est un empire hein, qui a accès à beaucoup de choses, certes, mais aussi hein, à beaucoup, beaucoup de dépenses. Quoi. Donc, administration féroce au départ, mais le propre des grands empires, c'est la corruption, naturellement, qui va petit à petit gagner hein, les différents appendices du pouvoir ottoman, les différents appendices administratifs, et qui donc va mener à un lent déclin malgré les réformes, etc. Mais pour dire que si on a ces archives, c'est quelque chose voilà, qui est naturel. On ne tient pas 400 ans sans être un minimum sérieux avec ses papiers. Mmh. Hein, mmh, on ne veut pas mmh, non plus... Mmh. Voilà. Mmh. D'ailleurs, la technique ottomane est toujours enseignée dans les écoles, hein, notamment sur les notaires. Hein, les papiers, l'administration, hein, etc. Voilà, on étudie encore ces pratiques-là. Et donc,
justement, en parlant de paperasse, nous sommes toujours en présence de Romuald Petgraaf. Romuald, vous êtes toujours là ?
Il y a Jésus là.
Alors vous, la paperasse, justement, vous connaissez, parce que entre les papiers concernant les papiers sanitaires des animaux, les laissez-passer, les passeports de vos employés, vous en bouffez de la paperasse.
Il y a exactement. Et c'est vrai que j'engage une secrétaire parce que je ne peux pas gérer ça tout seul.
Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je sais que l'évocation de cet événement vous fait toujours un petit peu remonter les émotions. On en a parlé en off, il n'y a pas de problème. On a également ce soir Patoulak Rigbert, qui est donc un de vos matelots.
Bonsoir.
Yeah.
Qui est là, qui vous accompagne depuis maintenant 7 ans, sur pas mal de traversées.
Ouais, 7 loyeuses. Et 7 années de loyauté.
Et c'est lui qui vous a sauvé la vie.
De haut, de bas.
C'est lui qui vous a sauvé la vie, yeah, une fois.
Yeah, je m'en souviendrai bien et je lui en suis éternellement reconnaissant.
C'était à nouveau pendant une tempête.
Yeah. Je me souviens très bien de ce jour.
Et vous nous avez autorisé à vous passer l'extrait, chers auditeurs. Yeah.
Je vais tout filmer sur mon iPhone. iPhone. Capitaine, qu'est-ce que vous faites ?
Mais laissez-moi tranquille.
Capitaine, c'est dangereux ce que vous faites là.
Mais vous comprenez pas, ça fait 25 ans pour sa vie.
Je sais, capitaine.
Je veux la rejoindre.
Capitaine, arrêtez. Pourquoi tant de mélancolie ?
Mais parce que c'était ma girafe préférée.
Mais, capitaine, 25 ans maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Oui, elle vous manque, bien sûr, mais pour penser à tout ce que vous avez réalisé maintenant, après, pour elle...
Mais on lui a coupé la queue.
Oui, mais il a souffert. Mais c'est pour ça que vous avez ouvert votre business, capitaine. C'est pour bien traiter les animaux.
Mais quand même,
vous ne retrouverez jamais son amour.
Je ne peux pas vivre sans elle.
Mais quand même, si vous avez réussi pendant 25 ans à faire le fer, pourquoi vous arrêtez maintenant ?
Vous avez survécu à chaque jour, 100% des jours. Après, vous avez survécu. Vous êtes un vaillant, capitaine.
Merci, mais c'est trop. J'en peux plus. Elle me manque trop.
Capitaine, reproduire un traumatisme ne va pas le résoudre, capitaine. Lâchez ce couteau, capitaine. C'est pas parce que votre Sophie, la girafe, a perdu. Il est plus coupé que vous devez faire de même. Ça ne la ramènera pas, capitaine.
Mais vous comprenez pas, je n'ai pas de queue.
Comment ça, vous n'avez pas de queue, capitaine ?
Mais à votre avis, pourquoi on m'appelle le transporteur ?
Hein ?
Oui.
Et comment ça ? Alors pourquoi vous avez un couteau ? Si vous n'avez pas...
Mais je veux me faire harakiri.
Ah non, capitaine. S'il vous plaît, le mousse a nettoyé le pont il y a 2 minutes, il y a un quart d'heure. Oh non, capitaine, vous avez été dans cette situation, vous avez subi les affres d'une soixantaine de marins, tout cela. Enfin, et si en plus vous me dites que vous n'aviez même pas de service 3 pièces, mais c'est un courage incroyable, capitaine. J'arrive pas à en dire.
Bon, allez.
Bref, s'il vous plaît, capitaine.
Ok, je vous fais confiance. Il y a les animaux comme ça qu'on s'occupe d'eux.
Oui, c'est ça, capitaine.
Merci.
Merci, ça fait 7 ans que j'apprends, du coup. 7 ans que vous m'avez offert un avenir, capitaine. Vous m'avez trouvé dans les bas-fonds du port de Valparaiso. Sans vous, je n'étais qu'un petit criminel, un voleur à la tire. Un homme qui proposait des concours pour tabasser des alcoolos européens dans les bas-fonds de Valparaiso.
Ah oui, et j'ai failli me faire tabasser par toi en plus. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais bon, quand vous avez parlé à ce perroquet, et qu'il est venu vous aider pendant le combat. Je sais pas, vous avez parlé allemand, il me semble, alsacien, yeah, je ne sais plus.
Yeah.
Et que le perroquet vous a obéi, je me suis dit, alors ça peut paraître un peu con, mais comment acquérir son pouvoir, comment ça changerait ma vie. Et vous avez accepté de me prendre sous votre aile.
Et si tu veux, je peux t'apprendre l'allemand.
Oui, capitaine. Par Techniquement, c'est la meilleure langue pour dresser les animaux.
Ok. Bon, fin de deal alors.
Très bien, capitaine. Je garderai votre secret. Naturellement. Je vous donnerai des cours d'allemand. Ou d'alsacien, je ne sais pas.
Donc, alsacien.
Alsacien, très bien. J'espère que tu pourras faire un stage.
Oui.
Un stage.
Yeah. Bon, allez, les animaux ont besoin de nous.
Oui, capitaine, allons-y. Je sors le whisky pour les vaches.
Extrait à nouveau, très intéressant de votre boîte noire. Très émouvant.
C'est des ancêtres en secret à la base. Hein.
Pourtant, vous avez signé les autorisations. On en a parlé tout à l'heure.
Oui, disons que le whisky pour les vaches, il était pour moi.
Ah, capitaine Coquin. Et donc, on vient d'apprendre avec cette bande, du coup, que voilà, vous êtes littéralement le transporteur. Et ça, je suis content que vous le preniez avec humour, hein. Est-ce que c'est vous vraiment le transporteur, celui qui a... qui a inspiré le film de Luc Besson?
On s'est rencontrés au festival de Cannes où il y avait une vache qui m'appartenait et que j'ai amenée à Cannes. Et on a eu le temps de discuter, je lui ai raconté mon histoire et on est venu le film.
Waouh! Incroyable! Est-ce qu'il y a un projet, quelque chose de prévu plus tard pour faire votre histoire, hein? Est-ce que c'est quand même, voilà, on parle de l'acteur, le fameux acteur qui monte là en ce moment,
Jason Statham.
Jason Statham pour incarner, reprendre le rôle de l'illustre Jason Statham. Attention, hein. Alors avec le succès dernièrement aussi d'Emilia Pérez, film de Jacques Audiard, qui d'ailleurs a remporté un Oscar, il me semble.
Ce serait une adaptation de mon livre, justement, Marin et amoureux des animaux.
Marin. Quoi le féminin de marin?
Marine.
Ouais, non, ça pue.
Non, je n'accepte pas marin.
Marin, c'est bien.
Yeah.
Écoutez, c'est pas impressionnant. Alors oui, vous avez pris déjà rendez-vous avec la réalisatrice. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est une exclusivité pour la fin du monde?
C'est-à-dire?
Ce projet n'a pas encore été divulgué, il me semble, sur les canaux officiels du monde du cinéma.
Ah oui, bien sûr, c'est d'une éventualité et qui est très proche de se produire.
C'est fort. Est-ce que dans le film, il y aura... Alors, ça va retracer, bien sûr, votre parcours. Mais est-ce qu'il y aura des anecdotes, des choses folles que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des aventures? Est-ce qu'il y a des perles de sagesse qu'on arrive à récolter quand on transporte comme ça des animaux, tout en cachant son identité, tout en jouant le rôle de l'autre genre?
J'ai failli me faire avoir par un milliardaire dont je dirai le nom.
Un milliardaire? Personne n'a été importante, donc.
Sur les côtes floridiennes. Qui venait de temps en temps avec son hélicoptère.
Alors, oui, il faut dire aux audiospectateurs que vous avez un hélipad directement sur le bateau pour transporter, au cas où il y a une blessure grave, un besoin urgent d'opération, transporter l'animal en question vers un hôpital sur Terre. Vous êtes mis dans l'héliport. Voilà. Donc, d'où le fait que ce milliardaire peut atterrir sur votre bateau en pleine
atterrir
mer.
Et
plein océan.
C'est littéralement un amoureux des animaux.
Littéralement.
Je ne peux pas en dire plus.
Il vient, il se bat dans les animaux, enfin, il s'occupe des animaux, genre.
Il
serait un peu le puff daddy du monde animal.
Exactement.
Et donc,
disons qu'on a un budget en fléchette endormissante,
tranquillisante,
assez imposant quand on va en Floride.
Et donc, chaque fois que vous passez au large de la péninsule de Floride.
Des litres de kétamine et
vous
aussi
avez,
pas mal d'huile pour bébé.
Voilà, on vous demande de transporter des choses, de quoi faire une petite soirée, des sound systems.
C'est ça.
Et d'un aller-retour incessant d'hélicoptères. Également.
C'est assez stressant pour les animaux, mais enrichissant pour mon portefeuille.
Vous avez déjà vu même un écranoplane, un milliardaire un peu foufou qui se balade
en
écranoplane.
Il a failli faire javirer mon bateau en plus.
Vous avez vu donc beaucoup de monde. Et c'est juste faire la fête au milieu des animaux. C'est quoi? C'est comme un défilé de mode. C'est soirée à thème, c'est Tarzan, c'est.
Bah vous savez, il y en a qui aiment les chocolats, il y en a qui aiment la guimauve, il y en a d'autres qui aiment les animaux, on n'y peut rien.
Oui, qui aiment... D'accord, est-ce que vous pourriez préciser quand même, parce que qui aime, c'est vaste, le mot aimer, parce que aimer la guimauve et aimer les animaux, oui, enfin tout le monde aime les animaux, mais vous avez l'air d'insister sur l'importance du degré d'affection, si je me trompe.
Je suis un peu embêté parce que toutes les ONG nous écoutent. Et je risque de perdre quelques contrats. Mais...
Écoutez, on peut... Grâce à Donna, on va pouvoir éditer toutes les fréquences, hein, ne vous inquiétez pas.
On va demander à Donna, oui.
On peut revenir en arrière, c'est notre IA.
D'accord.
Une petite IA, oui, on a une petite IA chez nous.
Qui s'améliore petit à petit, voilà.
Pour le Caveau d'Or, d'ailleurs, on annonce bientôt l'édition 2025 du Caveau d'Or pour une présentation des premiers candidats.
Une belle année,
une belle année, mais surtout très très beau début d'année.
Et même ce 2026, ça commence. Bon, ça va. Ça va. Mais c'est vrai que 2025, il y a du potentiel.
On démarre bien.
Il y a du potentiel. On vous invite, cher téléauditeur. Attendez. Rater cette session Caveau d'Or.
Alors, pour les premiers nominés 2025, la liste est vide. Jean-Marie Le Pen, 95 ans, 1928.
Ouais, ça. Il était dans les attendus, parmi les plus attendus.
Parmi les increvables.
Parmi les increvables, ouais, même, du coup. Ouais, c'est le degré supérieur, quoi.
C'est une sortie des increvables qui s'est fait en bonne et due forme.
Écoutez, un basculement.
Donc dans les increvables, pour rappel, on ne les attend plus, les plus de 80 ans, avec Jacques Attali, Gabriel Matzneff, Sepp Blatter, Jean-Marie Le Pen qui vient d'en sortir, Warren Buffett, entre autres. Pour les indésirables, pour les maintenant faut y aller, hein, on a une entrée tout à fait fracassante de Stewart et de Linda Reschnick, qui sont des milliardaires californiens, Roselyne Bachelot, Donald Trump... le couple Balkany,
oui.
Jean-Pierre Raffarin, Caroline Cayeux, Gérard Depardieu, Jean-Michel Aulas, Bernard Arnault, Marie-Christine Saurin, Gérard Larcher,
Gérard Darmon,
Ray Diallo, Gérard Darmon, Vincent Bolloré, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Robert Ménard, François Fillon, Pauve Daddy plus jeune.
Oui, c'est vrai. Oui. Faudrait y aller. Ce
serait dans les bien tant attendus.
Voilà. Pas faux.
Avec Guillaume Casbarian, Norman Tavot, Gabriel Attal, Adrien Quatennens, Marion Maréchal, Gérald Moussa Darmanin, Marlène Schiappa.
Bruno Retailleau qui fait une entrée fracassante. Fracassante.
Ouais, dans les maintenant, faut y aller.
Là, vraiment, voilà. On avait déjà eu la surprise Ciotti, on va dire. Mais là, le nouveau ministre.
Enfin voilà, tout ça pour vous dire, vous donner rendez-vous mi-juillet pour l'émission spéciale Caveau d'Or 2025 en compagnie de Donna.
Notre IA, fait maison, qui recueille toujours pour vous le meilleur de l'actualité mortuaire.
Nous tenons particulièrement à remercier nos invités de ce soir pour leur présence et leur affection. Et je veux bien encore un petit peu de hashish là, je plane là, c'est très bien ce que vous nous avez fait passer... Monsieur Petgraff.
Avec plaisir.
Vous jouez extrêmement bien de la sitar.
Ouais.
Je tiens à vous le dire.
Dankeschön.
C'est très apaisant. J'en reviens bien un peu encore.
Okay. C'est pour calmer les hippopotames un peu trop exidés.
C'est efficace.
Si vous avez un hippopotame chez vous, maintenant, vous savez.
Bah là, là ils s'endorment direct. Hein.
Faut pas me dire des mots en alsacien.
Nous remercions particulièrement les hippopotames, Palpouzian et. Et Karl Bouyol et. Et Petgrave pour leur présence.
Merci Richard, à vous.
Et. Remercie encore une fois. Lini Sambuka.
Merci. Mais vous avez amené à.
Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas.
Vous avez amené du travail.
C'est pour mon ami Jeffrey.
Oui, il a pas l'air de. Jeffrey. Ah, c'est pour ça que vous pouviez pas en parler.
Voilà.
On va finir suicidé dans le local radio, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Vous m'avez forcé, hein. Vous m'avez forcé.
Ah, c'est gentil d'avoir pris les lions, ça a du panache au moins.
Radio la fin.
Radio la fin.
Radio la fin.
Radio la fin.
Radio la fin. La fin.
Du monde. Du monde.
Una bairu pende liber pende laura cere gretaras tu una bairu mus frairis de compagno nace maculiaran din lor fairu mus frairis de compagno nace maculiaran din lor fairu.